Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Moi, je m'appelle Florence Voisin et je travaille donc au sein d'une association qui s'appelle l'Atelier Buissonnier, qui est une association basée à Brest, mais qui intervient sur tout le territoire du Finistère, en fait. C'est une association qui a été créée il y a presque 10 ans maintenant, avec l'idée de travailler de façon un peu large sur tout ce qui pouvait toucher au vivre ensemble dans les institutions. Les institutions, là aussi, de façon large, puisqu'on peut intervenir auprès de... dans des crèches. Enfin, ça va de la toute petite enfance au grand âge, on pourrait dire. Voilà, ça balaye tous les âges de la vie. Et donc, c'est les institutions, soit qui accueillent des personnes vraiment sur un temps de vie quotidienne, donc des institutions médico-sociales, par exemple, des foyers d'hébergement pour enfants ou adultes en situation de handicap, mais ça peut aussi être des écoles, des accueils de loisirs. Et puis, sur nos thématiques d'intervention, on a un petit peu resserré les choses en proposant des interventions sur ce qu'on appelle la vie affective, l'intimité et les sexualités, parce qu'il y avait de la demande et que c'était au cœur de nos préoccupations, en tout cas quand on a créé l'association. Ça fait quand même quelques années que les institutions se questionnent. Moi, les premières interventions que j'ai faites en institution, je travaillais donc à Paris au planning familial. Et en fait, on a été sollicité par des structures suite à des faits d'agression sexuelle, par exemple. Et les équipes se trouvaient très démunies face à cette situation-là, ne se sentaient pas outillées, enfin, voilà, étaient vraiment mises en difficulté. Donc, solliciter le planning familial pour pouvoir à la fois en échanger et puis mettre des choses en place. En se disant, bah, effectivement, il y a besoin, en fait, il se passe des choses, les personnes qu'on accompagne sont traversées par des désirs, voilà. Et donc, les premières interventions que j'ai faites, moi, c'était par ce biais-là. Et puis, aujourd'hui, on arrive à des interventions qui se font en prévention, en amont de violence, parce que, voilà, il apparaît de façon assez claire maintenant que, d'abord, les personnes en situation de handicap vivent une sexualité. D'un point de vue légal, ont tout à fait le droit de vivre une sexualité. Et donc, une fois qu'on resitue ça dans l'accompagnement global qui est attendu des structures, on ne peut pas faire l'impasse en fait, sur cette thématique-là. On est en devoir de pouvoir les accompagner, leur offrir des temps d'expression, des temps d'information, avec une difficulté, je pense, liée à un tabou sociétal. Simplement sur la question des sexualités, et puis après plus largement sur la question du handicap et de la sexualité.
Je vais au nom du nom des vents, j'y vais au son de l'avant.
C'est un tabou au sens large parce qu'on voit bien. Alors j'interviens aussi en école de travail social, donc pour les étudiants, futurs travailleurs sociaux en formation. Et déjà pour eux, en tant que personnes, très vite ils se rendent compte qu'ils sont en manque d'informations. Ils sont pas à l'aise avec les mots à utiliser pour décrire le corps et tout ce qui est partie sexuelle, par exemple. Donc forcément, puisqu'il y a cette gêne-là personnelle, et ben après, quand on est dans la rencontre et l'accompagnement de l'autre, on fait aussi avec nos gênes personnelles. Donc en fait... voilà, le tabou, il est aussi là, en fait, dans ce qui a été construit socialement. Étonnamment, on est dans des choses qui traversent les médias, qui sont presque sans pudeur, en tout cas avec beaucoup de nudité. Voilà, la sexualité est montrée, mise en scène dans tous les programmes que regardent notamment les ados, tout ce qui est télé-réalité, par exemple... Voilà, c'est quelque chose... Et en même temps, il y a tellement peu d'informations et de temps quand on, voilà, dans notre parcours de vie scolaire, etc., qu'on arrive à l'âge adulte avec ce qu'on a pu attraper un peu tout seul ou ce qu'on a eu dans la famille. Mais du coup, ça crée des très grands écarts, en fait. Donc il y a, pour certains, un manque d'informations, pour beaucoup, des mauvaises informations. Mais en général, on est assez sûr des informations qu'on détient. Et du coup, le problème, c'est que quand on est en posture professionnelle, voilà, si on transmet de la mauvaise information, ça peut créer des situations de difficultés pour les personnes qu'on accompagne, quoi. La question des relations amoureuses, la question du respect, du consentement, enfin, on voit bien que ça traverse la société quand même de façon assez forte dernièrement, toutes ces questions-là. Donc, je vais dire de façon générale, les personnes sont capables d'énoncer les règles, les limites. La difficulté, elle est dans vivre ces règles et ces limites. Et voilà, donc au quotidien, ben, effectivement, ça crée des situations et ben, parfois qui sont allées au-delà de la règle, donc qui vont tomber dans la catégorie des agressions sexuelles avec des gestes en fait, qui n'étaient pas consentis par l'autre. Et voilà, c'est des choses qu'on reprend en individuel ou à deux. Enfin, voilà. Mais j'aimerais qu'on travaille davantage la posture de celui qui demande, en fait. Parce que quand on parle du consentement, on est beaucoup dans comment dire non, savoir dire non, mais est-ce qu'elle a dit non, mais est-ce que, voilà, est-ce que la victime s'est débattue, est-ce que la victime s'est exprimée, est-ce que... Et en fait, la première question, c'est est-ce que la personne a demandé si elle pouvait voilà, avoir tel ou tel comportement. Et je pense que l'enjeu un petit peu là de l'accompagnement, alors je vais dire des nouvelles générations, mais les anciennes doivent aussi être à l'écoute, mais c'est effectivement comment je demande à l'autre, en fait. Voilà. Et on a trop souvent, alors on a quand même des drôles d'expressions hein, en France, on a quand même la fameuse expression « qui ne dit mot consent ». Bon, ben, ça pose clairement un problème dans le cadre des violences. C'est-à-dire que, en fait, s'il n'y a pas de oui, il n'y a pas de oui. Ouais. Mais pour qu'il y ait un oui, il faut qu'il y ait une question. Et voilà. Et être dans cette attention à l'autre, alors que ce soit une question posée verbalement ou qu'il y ait une attention dans la communication non verbale, dans le corps de l'autre, est-ce qu'il est toujours. Pardon. Est-ce qu'il est toujours détendu ou est-ce que là je sens de la crispation et que ben voilà ça éveille une vigilance, il faut que voilà que je vérifie que tout soit ok pour moi ou ma partenaire. Et je pense que voilà, là c'est un peu ce travail là qu'il y a à faire sur cette question du consentement parce qu'on voit bien que là il y a trop de choses qui marchent pas quoi.
Ouais.
Donc en fait, les publics accompagnés en structure sociale ou médico-sociale, elles échappent pas à ça. Elles sont dans ces mêmes réalités, quoi. Voilà. Avec en plus un tabou lié au handicap, pour le coup, si on se place dans le champ du handicap, qui est pas le même qu'on soit dans le champ du handicap physique ou intellectuel. Les personnes avec handicap intellectuel, si on caricature un petit peu, quand on pense à leur sexualité, soit elle va être très angélique. Voilà, ce sont des personnes sans désir sexuel. Voilà. Ou alors, on va être dans l'autre extrême d'une sexualité qui serait diabolisée, qui serait nécessairement perverse ou déviante. Et voilà, on a du mal à trouver un juste regard, en fait. On a le regard des familles aussi qui est à prendre en compte. Et pour des parents... d'enfants avec une déficience intellectuelle, même quand ils arrivent à l'âge adulte, ils sont parfois encore vus comme des jeunes ou un petit peu infantilisés. Il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est ce qui crée le tabou, hein, c'est la peur de la grossesse, clairement, pour voilà, une grossesse non désirée, la peur des violences. Enfin voilà, donc en fait, au tabou général se rajoutent des inquiétudes très particulières du coup. De la famille, mais pas que, parce que ça traverse aussi les professionnels et les personnes elles-mêmes qui peuvent se vivre pour certaines comme étant en situation de vulnérabilité. Certaines intègrent ça de façon très forte et se sentent en danger très vite dans la rencontre avec l'autre en ayant peur que l'autre ait comment dire, de mauvaises intentions à son égard, une envie d'abuser voilà, de cette vulnérabilité. Je vais... cette question-là, elle renvoie toujours à la question du consentement, et qui est très complexe, effectivement, quand on a une démence ou une déficience intellectuelle qui peut limiter parfois la compréhension de certaines choses, et que c'est là où les équipes sont un peu sur un fil entre permettre, accompagner les personnes à vivre des choses, ouvrir les possibles dans les structures, et en même temps être aussi toujours dans leur rôle de protection des personnes qu'on leur a confiées dans ces institutions-là, et donc veiller à la sécurité de chacun chacune. Je travaille là depuis, je pense que ça fait 3 ans, avec des travailleurs d'ESAT qui ont un handicap physique et pas de déficience intellectuelle associée. Alors on se voit à peu près une fois tous les 2 mois avec un contenu, donc c'est de l'atelier collectif, et le contenu est à la fois de l'apport d'informations de ma part sur des sujets quand ils le souhaitent. Et puis surtout, l'idée, c'est de leur permettre un espace d'expression autour de cette grande thématique. Ce qui ressort beaucoup, c'est l'envie de rencontrer quelqu'un et la difficulté pour eux, liée à leur handicap, d'être justement dans cette rencontre. On aborde par exemple la question des rencontres via Internet. Donc voilà, certains pratiquent... se sont inscrits sur des sites de rencontres, et la question qu'ils se posent entre eux, parce que, enfin, moi j'apporte pas de réponse, hein, je veux dire là-dessus, c'est vraiment leur vécu. Donc ce qu'ils questionnent entre eux, c'est par exemple, est-ce que toi tu dis tout de suite que t'es en situation de handicap ou pas, à quel moment tu le dis, voilà, et pourquoi on le dit pas, qu'est-ce qu'on craint, ou qu'est-ce qu'on a déjà vécu comme expérience qui nous fait dire que les portes vont se fermer avant même qu'on soit rencontrés si jamais on annonce le handicap. Donc ça, pour eux, c'est vraiment quelque chose de fort. Là, c'est l'image que renvoie le handicap à la société de façon générale, comme étant quelque chose de limitant, et y compris dans les relations amoureuses. Et que du coup, ils y font face de façon tout à fait frontale, et que c'est une vraie difficulté pour eux d'accéder à juste de la rencontre, sans même parler après de relations amoureuses, mais déjà rentrer en relation avec quelqu'un en dehors de leur institution, là pour eux de travail, quoi. Certains jeunes hommes qui ont entre 25 et 30 ans, qui sont assez catégoriques en disant qu'ils souhaitent être en couple avec une personne valide. Voilà. Il n'est pas question pour eux d'être en couple avec une personne avec un handicap. Et là aussi, alors c'est des choses qu'on discute. Pourquoi ? Voilà. Et parce que c'est énoncé de façon très forte et très claire. Et qu'ils peuvent dire aussi que ben, eux ne vivent pas de façon épanouie leur situation de personne avec handicap. Et qu'ils n'ont pas envie en plus d'ajouter à ça un deuxième handicap, le handicap de l'autre. Qu'ils sont aussi dans une recherche très forte de normalité pour certains, et que du coup, voilà, pour eux, la personne valide est dans cette normalité. Enfin, c'est comme ça qu'ils énoncent les choses. On a aujourd'hui, ce qu'on voit en France en tout cas, c'est que très clairement les institutions n'avaient pas été construites en pensant à des vies de couple, c'est-à-dire que les chambres sont des chambres individuelles, par exemple dans les foyers d'hébergement. Là on arrive à un moment où il y a pas mal de nouvelles constructions parce que les anciennes étaient plus aux normes, etc. Et que cette question-là quand même d'offrir la possibilité à 2 personnes de s'installer ensemble, par exemple, elle apparaît aussi dans les projets architecturaux. Donc il y a vraiment des choses qui bougent quand même de façon très forte, avec malgré tout des contraintes, on va dire, administratives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si à un moment donné on se met en couple, on va quand même garder chacun sa chambre, parce que le risque, ce serait aussi qu'il y ait une personne, à un moment donné, si le couple ne fonctionne plus, bah, qui n'ait plus sa place. Donc voilà, ça c'est quand même des réalités, c'est une place, une personne. Mais il y a des structures qui travaillent, par exemple, de plus en plus à imaginer alors, soit des espaces de rencontres qui peuvent être accessibles, qui sont en dehors des espaces privés ou des espaces collectifs partagés, mais qui sont soit des petits studios, soit des salons où des personnes peuvent accéder pour vivre une intimité, par exemple. Ou alors des systèmes de portes qui peuvent faire communiquer deux pièces, deux chambres, et qui peuvent permettre du coup d'avoir un couple installé dans ces deux chambres et qui s'organise pour aller et venir d'une chambre à l'autre sans être obligé de passer par le couloir collectif, qui fait qu'on est au vu et au su de tous. Et ça, c'est aussi une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de tout se sait dans l'institution. Et c'est quand même très difficile d'être discret et d'avoir une relation en discrétion, que ce soit vis-à-vis de l'équipe ou vis-à-vis des autres personnes résidentes de la structure. En fait, ils disent quand même tous, bah, tout se sait. Tout se sait très vite. Et pour certaines personnes, c'est compliqué. Et c'est là où la question d'intimité, elle est importante aussi à travailler, parce que quand on est avec des personnes qui, dans leur intimité physique, sont accompagnées en permanence, parce qu'ils ont besoin d'une aide à la douche, ou d'une aide pour s'habiller, par exemple, et quand ils sont en structure, très souvent, les personnes pensent qu'elles doivent tout dire. Et de leur permettre, leur dire et leur redire qu'elles ont le droit à leur intimité de la pensée, de leur vie affective, et qu'en fait, elles ont droit, par exemple, d'être amoureuses et de ne pas le dire, ni à leurs parents, ni à leurs tuteurs, ni aux équipes professionnelles du foyer. C'est important, parce que ça, bah, ça recrée aussi un jardin secret, voilà, quelque chose de personnel. Là où dans le quotidien, bah, y a effectivement beaucoup de choses mises en partage, et y compris son propre corps, sa nudité, et voilà, qu'elles sont déjà beaucoup dans le dévoilement. Alors il y a tout un tas de lois, hein, qui ont été votées et mises en œuvre en France, et notamment la loi de janvier 2002 qui remet la personne accompagnée au cœur de son projet, et ça c'était vraiment une loi importante, de pouvoir vraiment signifier que c'est la personne accompagnée, c'est sa vie en fait. Donc c'est, voilà, elle a le droit de dire ce qu'elle souhaite dans son quotidien, ce qu'elle souhaite dans ses activités, ce qu'elle souhaite voilà, dans ses voyages, dans ses choix vestimentaires, dans ses choix de relations. Donc ça, là-dessus, en France, on est quand même... Il y a quelque chose de clair. Après, ben voilà, parfois, dans la mise en œuvre, il y a effectivement tout ce contexte pressant, aussi pour les institutions et les équipes, qui rend les choses un petit peu plus difficiles, quoi. Et ça, ça fait partie des grandes revendications des professionnels, parce que ben, on ne peut pas à la fois avoir cette loi qui dit « la personne est au cœur de son projet », et puis des réalités quotidiennes... qui font que, bah, effectivement, c'est pas réalisable, en fait. Avec toute la bonne volonté des professionnels, il y a un moment où ça coince.
Je vais au nom du nom des vents, j'y vais au son de l'avant, j'y vais, j'en viens manger, dormir, c'est des matins.
Des fois, on se dit que ça doit être très difficile de s'approprier une sensation, un ressenti du corps, comme autre chose que médical.
Bah même, je dirais, se réapproprier un ressenti du corps tout court. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui témoignent en disant que qu'elles ont en quelque sorte anesthésié leur corps. C'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de douleur, parce qu'il y a beaucoup de manipulation, bah finalement, il est moins douloureux, en tout cas, de le vivre en déconnexion avec ses sensations. Et donc là, la question, quand il y a rencontre ou relation amicale ou amoureuse qui pourrait effectivement être sur passer par du toucher à certains moments, c'est comment retrouver de la sensation, en fait. Et ça, c'est des choses... Alors nous, on le travaille avec des petits sacs des sacs opaques dans lesquels on a mis des matières. Alors il y a un sac avec des lentilles, il y a un sac avec du sable, des pierres, etc. On le fait avec des personnes de tout âge, enfants, adultes, avec ou sans handicap, et pour questionner et travailler cette question de la sensation au toucher. Ce qu'on constate, c'est que les enfants sont très reliés à leurs sensations et sont très reliés de façon générale à tout ce qui se passe dans leur corps et vont vraiment pouvoir partager leurs sensations en disant ce que ça fait dans leur corps, en parlant de « ça me fait chaud dans le ventre »,« ça me fait des chatouilles dans le dos quand je touche cette matière ». Plus on grandit, plus on est en distance de tout ça. Les hommes plus que les femmes. Alors là, très clairement lié à une éducation genrée qui invite les hommes très tôt à se couper de leurs émotions, en tout cas à peu les entendre et à ne pas les exprimer. Et du coup, on sent vraiment que sur cette question des sensations, ça vient jouer assez fort. Et du coup, pour les personnes en situation de handicap physique ou de situation, on va dire, physique douloureuse, il y a effectivement cette déconnexion et cette difficulté, en fait, à énoncer qu'est-ce que ça me fait. Il y en a beaucoup qui disent « ni chaud ni froid, j'arrive pas à dire, je sais pas, ça me fait rien ». Et c'est assez parlant de cette question de, voilà, de cette distance prise avec le ressenti corporel. Et du coup, bah, comment le retrouver effectivement dans du rapport à l'autre, confortable et chaleureux, quoi.
Ce sont des personnes qui ont un corps quand même très médicalisé, en tout cas pour les personnes qui ont un handicap physique. Et comment on passe du corps médicalisé au corps intime?
Et comment on respecte dans l'accompagnement? Alors là, c'est le travail qu'on peut faire avec les équipes, les professionnels, c'est comment s'assurer qu'on est bien toujours dans le respect de l'autre, parce que c'est une notion qui est forte pour les professionnels et qui le mettent en avant très vite. Le respect de l'intimité, c'est quelque chose qui est inscrit dans les projets d'établissement. Et la question, c'est, une fois qu'on l'a dit, comment on le met en pratique? Comment on le met en pratique au quotidien? Comment on le met en pratique aujourd'hui avec des moyens qui ne font plutôt que diminuer, que ce soit des moyens en temps, des moyens humains. Et on voit bien, la question est quand même souvent abordée dans les médias sur la question du grand âge et des accompagnements en EHPAD, où on sait que dans beaucoup de structures, les choses ne sont pas satisfaisantes de ce point de vue-là, parce qu'il y a un souci d'aller vite. Et qu'on ne peut pas être dans le respect du corps de l'autre et de son rythme quand on doit faire sa toilette en 4 minutes montre en main. Donc voilà, ça c'est des choses. Alors évidemment, les premières personnes à en souffrir sont les personnes concernées, manipulées, physiquement. Mais les professionnels se retrouvent aussi en grande souffrance parce que les professionnels qui ont choisi ces métiers-là l'ont fait en général avec cœur et avec envie de, d'être au plus près de l'autre. Dans quelque chose de respectueux et que c'est violent de faire un arrêt sur image à un moment et de se dire mais en fait moi je me rends compte que là dans ma pratique bah, y a un tas de moments où parce que il faut aller vite, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'est pas assez nombreux, et ben effectivement on fait les choses trop vite au regard du rythme de la personne. Donc ça c'est quelque chose qui est difficile pour les professionnels de composer avec tout ça, en fait.
Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Ma route, la c'est des matins ratés. Partir, je vais, je viens, je tends. Au mieux, au mien, au pire temps. J'y vais, j'en viens, manger, dormir, c'est des matins ratés. Partir, ma route est la même. Ah, ah, je n'ai pas le temps. Ah, ah, ma route est la même. Ah, ah, ma route est la même. Ah, ah, je n'ai pas le temps.